Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Poubelle la vie, c'est le nom du feuilleton qui se joue à Paris et dans plusieurs villes de France. Sur fond de colère contre la réforme des retraites dans la capitale, les éboueurs ont reconduit la grève de ramassage des ordures jusqu'à lundi prochain, selon les syndicats. Est-ce que la préfecture va annoncer des réquisitions? La mairie de Paris est sommée par les policiers de dégager les poubelles sur le trajet de la manifestation demain entre les Invalides et la place d'Italie. Qu'est-ce qui nous attend justement demain côté perturbation et aussi mobilisation? Une mobilisation qui s'annonce importante avec au moins 850 000 personnes dans les rues. On fait le point ce soir. On parlera aussi d'inflation avec Michel-Édouard Leclerc, de prix de l'alimentation. Jusqu'où ces prix vont-ils monter pour les consommateurs qui n'arrivent plus à faire leurs courses? Est-il plus intéressant d'aller directement sur les marchés plutôt que dans les grandes surfaces? On fait le comparatif tout à l'heure à 18h30. Mais pour l'heure, il est 18h, c'est le rappel des titres de l'actualité.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Pile 18h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews. La grève des éboueurs, je vous le disais, se poursuit en France, notamment dans la capitale, où l'on dénombre plus de 6600 tonnes de déchets accumulés. Emmanuel Grégoire vient de s'exprimer, le premier adjoint à la mairie de Paris, estime que la ville est victime de l'entêtement du gouvernement. Il évoque aussi, écoutez bien, le service minimum.
Nous ne faisons pas le travail des grévistes à leur place. Nous n'intervenons que sur les cas d'urgence, sur des cas d'insalubrité. Et je vais vous dire, les éboueurs, ils ne sont pas plus heureux que nous de laisser les poubelles et d'être obligés d'être en grève pour faire entendre leur voix. Il n'y a pas du tout de travail de substitution. Et je le redis, jamais, jamais, cette municipalité, ni Anne Hidalgo, ni son équipe, n'engageront des mesures destinées à briser un mouvement de grève. Ce serait moralement, juridiquement et politiquement condamnable. Et donc, nous ne le ferons pas.
Voilà pour Emmanuel Grégoire. Certains arrondissements à Paris ont fait appel à des sociétés privées, alors que d'autres ont réquisitionné des éboueurs du Var pour désencombrer les rues. Écoutez l'un d'entre eux qui est justement monté à Paris.
Nous, on vient du Var. On a été envoyé à renfort pour travailler. Ils nous ont mis à l'hôtel. C'est tout payé, ça fait une semaine qu'ils n'ont pas collecté. Une semaine qu'ils n'ont pas collecté, c'est pas évident. En plus, c'est bloqué les camions, il n'y en a que 4. 4 camions de 26 tonnes, alors on fait le va-et-vient, 3-8 quoi. Va-et-vient, mais il manque.
Alors justement, faut-il réquisitionner les salariés des services d'ordures ménagères? 57% des personnes interrogées y sont favorables, selon un sondage CSA pour CNews. Un chiffre qui montre à 62% lorsque l'on interroge les Parisiens. Demain se tiendra la commission mixte paritaire qui statuera sur le texte final de la réforme des retraites. Le gouvernement espère bien sûr obtenir une majorité et ne pas utiliser le 49-3. Écoutez Elisabeth Borne cet après-midi à l'Assemblée.
Une majorité existe pour garantir aujourd'hui l'avenir de nos retraites et pour assumer demain des désaccords ou des oppositions franches sur d'autres sujets. La commission mixte paritaire se réunira demain sur notre projet pour les retraites. Vous serez ensuite conduit à vous exprimer sur la réforme des retraites, pas sur un soutien au gouvernement, mais sur ce projet.
Enfin, encore un mot sur l'affaire Pierre Palmade. La justice a confirmé ce matin sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Il a l'interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve. Une décision prise par la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris. La justice a modifié sa décision par l'évolution de son état de santé. Enfin, nous sommes à 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. 500 jours, c'est le début d'un décompte qui vient après des années d'efforts, a affirmé Emmanuel Macron. Le chef de l'État a reçu ce midi à l'Élysée 30 entreprises partenaires qui vont contribuer à hauteur de 12 milliards d'euros à l'organisation des JO. Voilà, 18h03. On est en direct sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1, avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Nous sommes avec le docteur Romain Lasseur. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes toxicologue animal.
C'est
on va
ça.
Parler avec vous, évidemment, de cette grève des éboueurs. On est aussi avec Ludovic Franceschet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éboueur, balayeur, c'est bien ça?
Oui.
Précisément.
Balayeur.
On va voir avec vous ce que vous pensez, ce qu'on vient d'entendre. Hein, et la mairie de Paris et vos collègues qui sont réquisitionnés depuis le Sud. Franck Louvrier nous accompagne.
Bonsoir.
Maire LR de La Baule. Merci d'être avec nous. Eric Revel, journaliste.
Bonsoir, Laurence.
Bonsoir à vous. Allez, on commence d'abord par aller sur le terrain, dans les rues de la capitale. Il n'y a pas que Paris qui est évidemment touché par les grèves des éboueurs. Il y a une dizaine de villes. Nantes, on parlait de Nantes, du Havre notamment. Mais Paris, c'est assez évidemment, ça saute aux yeux et aux narines. On va rejoindre Vincent Fahandège, notre envoyé spécial, dans un quartier résidentiel de la capitale, dans le 15e. Vous êtes avec Jean-Laurent Constantini. Là, est-ce qu'il y a des tas d'ordures autour de vous, Vincent ?
À poubelle la vie, vous avez tout résumé dans votre sommaire il y a quelques minutes, Charles Laurence. Effectivement, c'est ce qu'on vit avec Jean-Laurent Constantini depuis cet après-midi ici dans le 15e arrondissement de Paris, dans cette zone résidentielle. Pour vous décrire un petit peu ce qu'on a autour de nous, eh bien, c'est une espèce de petite colline, de montagne, de déchets, de détritus au pied des immeubles. Je fais à peu près 1m75, il y a au moins 1m70, allez à 1m75 peut-être même de hauteur de déchets là où on se trouve. Et le pire tout ça, c'est que effectivement nous sommes au début de la rue, mais cette rue elle fait plusieurs dizaines de mètres et à chaque croisement de rue, eh bien, il y a ces espèces de tas de déchets un petit peu partout donc dans cette rue. Et puis c'est vrai qu'on a rencontré des habitants, ces habitants qui nous disent effectivement eh bien que c'est dégoûtant, ils n'en peuvent plus. Ça fait 4 jours que les déchets n'ont pas été ramassés ici. Ici vous le voyez, on peut même presque plus passer sur les trottoirs parfois ici dans le 15e arrondissement de Paris. Mais il y a cet habitant eh bien qui préférait prendre les choses un petit peu plus à la légère et nous dire eh bien on n'a pas encore vu les rats, donc on se rassure comme on peut.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent Fahandège, Jean-Laurent Constantini. Monsieur Français, je disais que vous étiez boueur et balayeur. J'imagine que ça ne vous fait pas plaisir ces images et ce qu'on entend là.
Alors bien sûr que non. Alors je voudrais juste préciser que je parle en mon nom et non au nom
absolument
des éboueurs et des syndicats. Vraiment. Et je voudrais aussi rectifier quelque chose parce que j'ai dit ailleurs qu'il y avait des caisses de grève. Ce qui est faux, il n'y a pas de caisses de grève.
Donc vous n'êtes pas remboursé de vos jours de grève.
Voilà. Et voilà, ça c'est dit. Alors du coup, bien évidemment que ça me fend le cœur, mais c'est notre seul moyen de pression, ben, en tout cas pour moi, d'être en grève, de ne pas travailler. Travailler, c'est ramasser les déchets ou collecter les balles. Je suis en grève, je ne le fais pas, tout simplement.
Pourquoi vous êtes contre cette réforme des retraites ?
Ah oui, moi je suis contre, parce que ben, je n'ai pas envie de moi travailler 2 ans de plus. Déjà que c'est un métier qui est ultra pénible, je pense surtout aux reapers qui font que ça.
Donc, qu'est-ce que c'est alors la différence entre reaper et boueur ?
Alors le balayeur, lui, il est au balai, il pince, donc c'est des difficultés différentes. Le reaper, lui, il est derrière les camions. Moi, j'ai fait 1 an de reaper, donc... c'est les articulations qui prennent un coup et puis on tire des bacs de 600 litres. L'eau, c'est lourd, hein, parce qu'il y a souvent de l'eau dedans. Et voilà, donc c'est très compliqué.
Vous ne voyez pas travailler 2 ans de plus, c'est ça ?
Ah non, vraiment pas. Moi, en tout cas, ça va être très, très compliqué. Alors, moi, j'ai une carrière hachée. Et du coup, j'ai fait ma simulation, c'est très rigolo. Je vais partir à 68 ans avec 1 400 € net, sans la réforme, et avec la réforme, 70 ans. Mais c'est impossible, hein, on est bien d'accord.
Mais donc vous, parce que c'est un cas particulier. Voilà. Mais vos collègues éboueurs, c'est pas 62 ans pour l'instant. Ils partent plus tôt,
alors
on
moi,
est d'accord.
Moi, je parle pas pour mes collègues. Hein. Je parle vraiment pour moi.
La moyenne,
alors,
c'est
après,
quoi ?
Les éboueurs, actuellement, ils partiraient à 57, avec une longue carrière. Avec la réforme, 59, je crois. Voilà.
Non, évidemment, ça, ils ne l'envisagent pas. Ils
disent
que c'est trop dur
bien
pour
sûr
eux.
Que non.
Ok. Louis Dragnet, une petite question avant la pause.
Moi, j'avais une question, ça m'intéresse, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure. Comment vous réagissez quand vous entendez parler de service minimum, quand vous entendez parler de réquisition, ou quand vous voyez que certains exécutifs locaux recourent à des sociétés privées pour faire le travail, souvent pour des raisons qu'on peut comprendre, qui sont des raisons sanitaires, qui sont des raisons de préserver la salubrité publique?
Le service minimum, ça casse complètement la crédibilité de la grève de mes de la grève des éboueurs, en fait.
Vous les considérez comment, ceux qu'on fait venir du Sud, alors ?
Ah ben, je pense que peut-être ils ont aussi besoin de travailler. Après, c'est très compliqué, on ne peut pas tous faire grève. Moi le premier, ben, je fais grève en dents de scie. Là, je suis à 3 jours, je vais faire grève prochainement. Voilà, donc moi, je vais trouver des moyens pour pouvoir gérer tout ça. Et j'imagine que... Ben, après, il y a l'inflation, il y a tout ça. Donc, du coup, il faut travailler, hein, bien évidemment. Et je pense qu'ils ont ces motivations-là. Mais après, ils sont peut-être solidaires aussi
alors,
à notre mouvement.
Est-ce que vous comprenez que certains maires veuillent nettoyer quand même les rues de leur ville et se disent, bon, ben, on va prendre des sociétés extérieures pour faire ça, pour à la fois pas alors, entraver votre droit de grève,
monsieur,
et en même temps nettoyer les rues.
Moi, je
pense
que certains maires pensent à l'avenir et ça va être compliqué pour leurs enfants.
Alors, docteur Romain Lasserre, vous êtes toxicologue animal. Il y a un vrai risque, là, en ce moment, dans les rues de la capitale et dans d'autres villes ou pas ?
Bah, il y avait
de
déjà un
transmission
risque.
Transmission de maladie par les rats. Hein,
ouais, il y avait déjà un risque existant dans les grandes métropoles, dans la mesure où l'exécutif recule devant le courage qu'il faudrait pour pouvoir réguler ces populations de rongeurs.
C'est-à-dire, concrètement, ça veut dire quoi ?
Bah, on ne parle pas d'extermination des rongeurs en ville, on parle simplement de maintenir les rongeurs sous un seuil de population qui ne provoque pas d'impact sur la santé de l'homme, sur la santé de ses riverains, qui veulent par ailleurs vivre avec des animaux, mais qui ne veulent plus vivre avec dès qu'il y en a beaucoup. Donc c'est un peu problématique, et là on vient juste rajouter une couche supplémentaire qui est la disponibilité alimentaire. Donc il n'y a pas de génération spontanée, les rongeurs, on va vite fait les voir en surface, ça c'est une certitude.
C'est le cas à Marseille.
Hein. C'est le cas à Marseille, hein. Chaque grève, 5 jours après, on a des rongeurs partout dans les rues. Et puis, bah oui, le risque de transmission de maladie qui est bien réel, contrairement à tout ce qu'on veut bien nous raconter. Il y a un risque de transmission de parasites. On ne sait pas trouver un rongeur en ville qui ne porte pas une bactérie ou un parasite. C'est ça la réalité. Okay. Contrairement aux gens qui effectivement nous disent qu'il faudrait qu'on cohabite avec. Et là, un vrai risque pour les riverains, un vrai risque pour les chats, les chiens.
De se faire mordre, c'est ça ?
Non, pas forcément de se faire mordre. La principale maladie se transmet par l'urine des rongeurs.
Par l'urine des rongeurs.
Le simple contact,
on
n'a pas forcément...
Et les éboueurs sont les concernés en premier, d'ailleurs.
Et les éboueurs, effectivement, mon confrère qui est ce soir sur le plateau, qui va risquer, lui, en tant que balayeur ou éboueur, s'il reprend le travail, effectivement, va risquer d'être en contact avec cette urine qui aura stagné pendant 10 jours dans des sacs. Alors effectivement, oui, je pense qu'on prend les gens en otage, mais les rongeurs sont contents de cette situation.
Quel type de maladie on peut attraper ?
Il y a une maladie assez connue, mais assez mal connue du grand public, qui s'appelle la leptospirose, qui est une maladie bactérienne qui se transmet par l'urine. Une leptospire, dans des bonnes conditions de température et d'humidité, elle est capable de rester 200 jours dans l'environnement. Donc en fait, on va stocker de manière assez longue
des pathogènes.
Mais c'est quoi les symptômes ?
Les symptômes, comme beaucoup de maladies qui sont déclenchées, notamment transmises par les rongeurs, commencent par un état grippal. Et là, petit à petit, on commence à avoir un syndrome rénal. Ça fait dysfonctionner les reins, jusque et y compris quand on s'en aperçoit pas assez tôt, parce que ça ne vient pas tout de suite à l'esprit du médecin, médecin traitant, c'est dialyse. Et c'est 10 à 12% de mortalité chez l'homme.
Donc on fait très attention aux enfants. On leur dit surtout, vous ramassez rien par terre.
Mais il suffit simplement qu'on promène son chien le long des détritus dans lesquels les rongeurs ont joué toute la nuit, et on est en contact avec le pathogène. Bon. Et c'est ça la réalité. Donc on prend les gens en otage, les rongeurs sont contents de cette situation, et on est à 6 mois de la Coupe du Monde, on est à 500 jours des JO. On pourrait même se baigner dans la Seine, d'après notre président de la République. Non. Moi, j'y jouerais pas. Franchement, d'accord, avec la situation sanitaire qu'on est en train de dégrader, on jouerait pas.
Un tout petit mot, Franck Louvrier, maire de La Baule.
Oui, d'abord, chacun ses responsabilités, d'une certaine façon. Nous, il est normal que quand on est élu et quand on est maire, qu'on prenne le problème à bras-le-corps et qu'on essaye de résoudre les difficultés. Après, chacun s'exprime comme il l'entend, mais je pense que quand on entend les déclarations de M. Grégoire, le premier adjoint, le maire de Paris, qui fait de la politique avec les poubelles, franchement, c'est inadmissible. Quand on est élu, on essaye de gérer justement la situation sanitaire pour éviter qu'on se retrouve dans un univers qui n'est pas celui de Ratatouille, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est généralement plutôt catastrophique. Et donc voilà, et ça touche aussi bien ceux qui sont grévistes, qui reviendront après dans leur travail au quotidien, que ceux qui vivent au quotidien.
On va faire une petite pause. Je vous passe la parole dans un instant, M. François Séchet. On va continuer à parler de cette grève des éboueurs et surtout aussi de la réforme des retraites, puisqu'il y a une échéance importante demain. Il y a une grande mobilisation dans toute la France et aussi une échéance politique. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On évoque toujours cette grève des éboueurs. Avec un vote à l'unanimité, les éboueurs de la ville reconduisent leur mouvement jusqu'à lundi prochain. Et il y a aussi l'incinérateur d'Ivry qui est bloqué. Ça veut dire, Ludovic Franceschet, vous qui êtes balayeur, que même si on arrivait à dégager les poubelles de Paris, elles seraient stockées à un autre endroit, c'est ça ? Si l'incinérateur ne fonctionne pas.
C'est un peu ça, oui. Et puis nous, de toute façon... Nous, si ça se débloque, on peut aussi faire grève d'une autre façon. Hein.
Comment ?
Faire grève, tout simplement, pas toucher son balai.
D'accord. Donc, voilà. Ça veut dire que continuer la grève au-delà de lundi.
Ah oui, oui.
Quels que soient les risques encourus.
Ah oui.
Ouais.
Parce qu'il ne faut pas lâcher. C'est tellement important ce qui se passe. Je crois qu'on ne se rend pas assez compte. C'est les nouvelles générations qu'on est en train de sceller, là. Mm-hmm. Et c'est hyper important pour l'avenir. Et puis pour l'avenir de la planète aussi.
Ah ben justement,
la propreté, etc. Enfin,
oui, la propreté,
là, il faut agir. Il faut agir. Il faut vraiment agir.
Bon. On va écouter Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, qui a été sommé par la préfecture de police de dégager le trajet de la manifestation de demain, parce que ça va partir des Invalides pour aller à la porte d'Italie, donc ça fait une trotte. Écoutez ce qu'il a dit, il dit a priori, ils ne pourront pas ramasser toutes les poubelles sur ce trajet.
On ne pourra pas mettre en sécurité l'intégralité du trajet, on n'en sait rien, mais on va voir cette nuit ce qu'on est en capacité de faire au regard des réquisitions qui sont formulées par le préfet. Je redis, on va y travailler avec le préfet de police et ses équipes, on travaille bien ensemble, mais on ne peut pas faire de miracle.
Franck Louvrier, maire LR de La Baule, ça vous surprend, encore une fois, l'attitude de la mairie de Paris?
Oui, moi je trouve qu'il y a une tournure politicienne de la part de la mairie de Paris qui n'est pas utile, alors que les Parisiens, j'imagine, comme les Nantais ou d'autres, sont dans des situations quand même... qui sont sanitairement à la limite de l'acceptable. Donc on ne peut pas dire c'est de la faute de l'un ou c'est de la faute de l'autre. Il faut qu'à un moment donné, la maire de Paris prenne la décision de prendre, je dirais, le taureau par les cornes, comme on dit vulgairement, et aille vraiment s'occuper de cette gestion quotidienne. Franchement, c'est inacceptable parce que le maire et son équipe municipale, c'est la proximité. Et quand le maire et son équipe municipale expliquent qu'en fin de compte, la proximité, ce n'est pas eux, ce n'est pas leur rôle, bah alors qui s'en occupe? Et en fin de compte, on est face à un déni de responsabilité face à une situation qui devient sanitaire et grave, parce que bien évidemment, qui touche aussi bien les plus petits que les plus anciens qui vivent au quotidien.
Vous voulez de Ragnel, Europe 1?
Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Franck Louvrier. Moi, je trouve qu'il y a une vraie responsabilité morale, enfin, qui dépasse même le bon sens. C'est-à-dire que, certes, oui, il y a un débat politique, mais ensuite, votre responsabilité de maire, c'est quand même l'essentiel, c'est la sécurité et la salubrité. Si déjà on fait ça, c'est déjà exceptionnel, en tout cas, à Paris. Moi, ce que je note, simplement, quand on écoute toute la séquence de M. Grégoire, c'est qu'en fait, il ne veut pas. Il ne veut absolument pas faire, entre guillemets, ce cadeau au gouvernement que de nettoyer les rues de Paris.
Il ne veut pas casser la grève, surtout.
Exactement. Et il dit, je ne veux pas briser le mouvement. Et il dit, en cas d'urgence, nous interviendrons. Et s'agissant de la demande de la préfecture de police, là, pour le coup, en plus, c'est le serpent qui se mord la queue. La préfecture de police de Paris demande à ce que l'itinéraire pour la manifestation de demain soit dégagé pour permettre le bon déroulement de la manifestation. Et Emmanuel Grégoire dit, on n'aura pas le temps. Non, la mairie de Paris, elle a des moyens qui sont considérables, objectivement. Alors, Rachida Dati, tout à l'heure, parlait de plus de 10, je crois que c'était 10 milliards d'euros de budget. Mais en termes d'aménagement du territoire, en matière de capacité à nettoyer des axes, la mairie de Paris dispose de ces capacités-là. Et ce que je trouve terrible, c'est qu'en fait, pour des raisons politiques, eh bien, le bon sens est complètement évacué et ce sont les Parisiens qui trinquent.
Ludovic Franceschet, vous êtes balayeur. La mairie vous soutient, c'est désormais assez clair.
Oui.
Donc vous allez pousser le bouchon jusqu'où, en fait?
Jusqu'au bout.
C'est-à-dire? Parce que là, si la loi elle est votée jeudi, qu'est-ce qui se passe? Vous continuez le mouvement de grève?
Moi, je vais suivre l'avis des syndicats.
D'accord.
On va voir ce qu'ils vont nous dire.
Mais la situation ne peut pas perdurer non plus trop longtemps.
Ils vont le décider.
Non, mais à vos yeux, à vous.
Il faut que ça continue parce qu'il faut que cette retraite, il faut que cette réforme soit retirée.
Bon, elle sera
Je conseille à toutes les personnes qui peuvent faire grève, faites-le.
D'accord. Éric Revel.
Moi d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire ma gratitude personnelle, et je le dis sans démagogie, parce que c'est bien de vous avoir sur ce plateau, c'est bien de savoir que quand les poubelles sont plus ramassées par des gens qui font ce travail, ben on voit dans quelle situation sont nos rues. Donc je vais vous dire en toute sincérité ma gratitude, parce que vous ne faites pas un métier qui est très bien payé par définition, vous ne faites pas un métier qui est valorisé ou valorisant par définition, et pourtant vous tenez le balai tous les jours quand vous n'êtes pas en grève. Et ça, il faut quand même... j'allais vous demander de soulever votre bonne, mais je vous tire mon chapeau.
Il faut saluer toutes
bien
les
sûr,
personnes
bien sûr,
qui font ce métier-là.
Bien sûr, mais vous les présentez là, sur ce plateau.
Oui, bien.
Maintenant,
en
je vais vous dire une chose, quand même. Alors, je comprends le moyen de pression que vous agitez, et c'est normal, parce que travailler 2 ans de plus dans des métiers comme les vôtres, c'est pas rien. Bon. Maintenant, quand j'entends, pardonnez-moi, et la mairie vous soutient, et tant mieux pour vous, mais quand j'entends le premier adjoint de Mme Hidalgo qui nous explique qu'en cas d'urgence, ils feront peut-être le nécessaire, mais pardonnez-moi, si la manifestation dégénère avec des black blocs qui se fondent dans les poubelles, qui foutent le feu à ces poubelles, mais la vie de certaines personnes vont être mise en cause. Quand j'entends le docteur nous expliquer les risques sanitaires, là, dans les jours qui viennent, si ça, ce ne sont pas des cas d'urgence, c'est quoi les cas d'urgence pour le premier maire adjoint? Donc il y a des blocages industriels quand on fait grève, et il y a un blocage idéologique puissant à la mairie de Paris qui, à mon avis, va se retourner contre,
contre eux.
Docteur Romain Lasseur, vous êtes toxicologue animal. Ouais. On est déjà en situation de risque, puisqu'il y a certains endroits, depuis 8 jours, c'est pas ramassé.
Oui, alors bon, moi, ça fait déjà quelques années que je le signale. Hein, la situation de risque, c'est le manque de courage de réguler ces rongeurs depuis de nombreuses années
c'est
déjà.
Ça veut dire quoi, réguler les rongeurs? C'est balancer du pesticide,
alors,
de la mort au rat?
Ça, c'est effectivement mieux réfléchir le ramassage des ordures ménagères quand on les sort le soir et qu'on les ramasse le lendemain matin. Ça laisse quand même toute la nuit aux rongeurs pour pouvoir consommer. C'est peut-être mieux concevoir les bacs de ramassage parce que quand on ne remet pas le bouchon au fond, bah les rongeurs ils montent facilement dedans. C'est reconcevoir avec les aménageurs urbains le mobilier urbain et la poubelle de manière à ce qu'elle ne soit plus accessible aux rongeurs. C'est beaucoup de petites choses qu'il faudrait savoir aligner en intégrant effectivement le courage de devoir réguler avec des produits chimiques ces rongeurs en surface. Parce que
c'est
ça
interdit
reste...
actuellement ?
Ah non, c'est pas interdit, mais c'est pas fait. Donc effectivement, ne pas faire un truc qui n'est pas interdit, effectivement, on revient à un manque de courage.
Et
parce
au nom de quoi c'est pas fait ? De la souffrance animale ?
Les
surmulots qu'il faut protéger,
développer. Alors effectivement, je ne rentre pas dans le débat sémantique
culinaire.
Voilà. Moi, j'appelle ça des rats. Hein. Quand j'en mange, j'appelle ça des rats.
Nous aussi, on
parle de rats.
Terminé, monsieur
Vasseur ? En fait, il faudrait juste savoir aligner un certain nombre de choses avec les aménageurs urbains, avec nos confrères du ramassage des ordures ménagères, pour mettre la pression sur ces rongeurs, parce qui représente une problématique sanitaire. Et aujourd'hui, on en est à devoir redémontrer ce qu'on a vécu pendant 500 ans, c'est-à-dire de l'impact dans notre société, de la transmission de maladies. Alors, on ne parle pas effectivement de la peste, mais on parle de nouvelles maladies, de leptospirose, de campylobactères, de clostridium, de plein de bactéries qui peuvent pourrir la vie des Français. Avec un certain nombre d'associations en face de nous, avec un exécutif qui n'a pas le courage d'y aller parce que ce n'est pas très populaire de réguler les rongeurs en surface, on a l'impression de devoir refaire la démonstration que le rongeur a un impact sur la santé de l'homme. Mais c'est les Parisiens qui vont l'apprendre à leur dépens.
Il y a combien de rats à Paris ?
Alors, c'est difficile à dire. On parlerait de 4 à 6 millions de rongeurs. Si je m'en réfère à un chiffre qui nous a été transmis par la Chambre syndicale professionnelle de notre métier, dont le porte-parole Stéphane Bras a pris la parole ce matin en direct, c'est plus 35% d'intervention pour des questions de dératisation en 2022. Alors après, on me dit, il n'y a pas de souci, tout est sous contrôle à Lyon, tout est sous contrôle à Paris. D'accord, mais d'où viennent ces 35%? Quand on intervient plus, c'est forcément que les gens se plaignent plus. S'ils se plaignent plus, c'est forcément qu'il y a plus de rongeurs.
On est d'accord et si ces 4 à 6 millions de rats sortaient, les rues seraient noires, grouilleraient de rats.
Il y en a déjà une grande partie qui sont en surface, qui sont relativement discrets quand la densité n'est pas très importante, mais qui deviennent de plus en plus opportunistes quand il y a une pression alimentaire. On estime qu'on a 60 à 70% des rats qui sont en surface, le reste dans les réseaux. Là, on va avoir une accumulation d'une grande quantité alimentaire en surface, surtout si le mouvement se poursuit avec les déchets. Alors, les rongeurs savent ouvrir des sacs poubelles. Hein. Ils savent ronger des câbles électriques. Donc, un sac poubelle, ça ne représente pas
un défi
très important.
On est des grands gaspilleurs aussi.
On est des grands gaspilleurs. Ça. Mais justement, ces espèces-là sont des variables d'ajustement de notre gaspillage, du compromis social qu'on fait, qui est de dire on ne mange pas tout, on en met une partie à la poubelle. Le rongeur, il est là, il a une utilité. C'est plus à démontrer que le rongeur a un rôle utile également en ville, mais pas dans des densités telles qu'on les connaît aujourd'hui, avec le risque sanitaire que ça pose.
Ludovic Francéché.
Oui. Alors moi, en fait, je travaille dans le centre de Paris au Forum des Halles et j'ai énormément d'exemples. Il y a des gros pots de pop-corn, par exemple, qui sont jamais finis et qui sont éparpillés partout. Ben là, le rat, il le sait. Les morceaux de pizza qui restent sur les bords sur les bancs, etc. Donc, le rat, il le sait.
Bien sûr.
Donc, si nous, on pouvait finir notre nourriture à nous, déjà, ça pourrait être un petit effort pour faire de grandes choses.
Et vous en croisez régulièrement, des rats ?
J'en croise, oui. Mais bon, ils ont peur.
D'accord.
Non, mais effectivement, c'est assez vrai.
Docteur.
Aujourd'hui, on a un comportement de consommation. On est des consommateurs. Donc, on prend, on mange, on jette. Et c'est sûr qu'on pourrait imaginer revoir nos comportements de consommation. Mais alors là, il faut qu'on se donne quelques années quand même. Enfin, j'espère que la grève ne va pas durer autant de temps. Mais avant toute chose, c'est le risque sanitaire qui est là sous nos yeux qu'il faut qu'on gère. 500 jours des JO, il y a même notre président de la République qui pense qu'on va sauter et nager dans la Seine. Moi, je le déconseille, avec toutes les maladies bactériennes.
Jacques Chirac, au début de son septennat, avait dit la même chose. Hein.
Vous déconseillez, docteur ?
Oui, je le déconseille. 600 000 personnes à l'ouverture des JO, sur les quais de Seine. Qu'est-ce qui va se passer si on a un athlète qui saute dans la Seine et qui chope la lepto ? Qu'est-ce qui va se passer si on a des rats qui courent dans les jambes des gens qui viennent à l'ouverture des JO ? Je sais pas, c'est ça qu'on a envie de montrer de notre pays. Bah, je me sens pas vraiment très français dans ces cas-là. Donc on peut pas laisser faire cette situation. Je rejoins totalement mon collègue sur le besoin et la capacité de pouvoir faire grève dans ce pays. Je pense que la forme que ça prend aujourd'hui, elle prend les gens en otage et c'est pas pas très bon pour notre pays, y compris sur le plan sanitaire et sur le plan de l'image, pour tous ceux qui nous regardent. Évidemment. Sur la scène étrangère.
Franck Louvrier.
Ce que vous soulevez aussi, c'est le comportement civique des Français.
Bien sûr.
Quand on voit les images qu'on a devant nous de ces tas de d'ordures, il n'y a aucune gestion. Les gens ont un comportement, et je dirais souvent, moi je dis souvent ça à mes employés municipaux, je leur dis, mais une grande partie de votre temps, c'est la gestion de l'incivisme des gens.
Bien sûr.
Quand on ramasse la quantité de mégots, qui est le premier déchet jeté sur notre commune à La Baule, par exemple, c'est un temps énorme qui est consacré au fait qu'on ramasse des mégots de gens qui jettent des mégots. Sans penser que derrière, il y a des hommes et des femmes qui vont faire ce travail-là. Et donc là, si au moins cette période de grève pourrait avoir comme élément positif, au-delà de ce que...
Un peu de pédagogie.
Un mégot pollue 500 litres d'eau.
Mais voilà, exactement. Mais si ça pouvait changer les comportements de certains Français en prenant compte et en cause tout ça, ce serait une bonne chose.
On va écouter juste quelques sons des boueurs à Ivry, tout près de l'incinérateur, qui expliquent la suite du mouvement.
C'est vrai que Paris, c'est sale. Les gens sont en contact des poubelles, c'est vraiment sale. Après, on se dit, donc, ça fait une semaine que cela, c'est insupportable pour certains. Et ça ne gêne pas, par contre, que les gens qui sont au cul des camions, ce qu'eux, ils vivent depuis une semaine, c'est horrible. Donc, on prolonge, eux, de 2 ans, après avoir fait, toute leur carrière comme ça. C'est encore plus dégueulasse, ça. Donc, si c'est possible pour les éboueurs de faire encore deux années de plus, ils peuvent encore tenir 2, 3, 4, 5 semaines de plus. C'est pas un problème.
Docteur Romain Lasseur, ils sont encore plus exposés, les éboueurs, à ces maladies que vous décrivez, que le grand public ?
Alors oui, historiquement, la leptospirose s'appelait la maladie des égouttiers. Donc c'était une maladie qui était plutôt cantonnée dans les égouts, pour ceux qui parcouraient les réseaux. Mais en vrai, les réseaux, c'est pas si sale que ça, pour les avoir parcourus à Paris et à Lyon. C'est pas si sale que ça, ça concentre pas des grandes quantités de déchets. C'est une maladie qui suit le rongeur. Donc si le rongeur remonte en surface, notre leptospirose aujourd'hui, c'est devenu une double maladie. Une maladie des professionnels qui sont au contact des rongeurs et de l'urine. Nos amis, les balayeurs et éboueurs de nos villes, et tous ceux qui vont en contact des zones aquatiques et des loisirs aquatiques. Donc les pêcheurs, les chasseurs et les gens qui fréquentent les bases de loisirs notamment. Donc en fait, c'est devenu une maladie du loisir et une maladie professionnelle de surface. Donc oui clairement, clairement, ils vont au contact des rongeurs et au contact de ces maladies-là. Et plus la densité de rongeurs est importante, plus la probabilité qu'ils puissent contracter ce type de maladie est importante.
Ludovic Franceschi, vous avez des collègues qui sont malades de ce type de maladie ?
Alors, moi, j'avais un collègue, je travaillais avec, et malheureusement, il est parti 2 mois avant sa retraite.
D'accord.
Voilà.
Mais de leptospirose ?
Non, mais bon, voilà, je voulais juste...
Mais quand vous entendez votre collègue dire « on ne veut pas faire 2 ans de plus au cul du camion », vous comprenez ?
Ah oui, complètement, bien évidemment. Moi, j'ai fait 1 an Reaper. Moi, je tire mon chapeau aux éboueurs qui font Reaper toute leur carrière. Vraiment.
C'est épuisant.
Oui. Si on peut même baisser, même si on peut leur donner la retraite, même beaucoup plus tôt que 57 ans, c'est magnifique, franchement. Je peux vous garantir que c'est très usant.
On entend toutes les versions, effectivement, Franck Louvrier.
Non, mais bien sûr, mais moi, d'abord, la pénibilité du travail, c'est une réalité. La seule chose, c'est qu'on est face à des échéances qui sont des échéances à la fois, on le sait très bien, on ne peut pas répondre à la situation que l'on avait auparavant. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir financer les retraites des gens. Donc, il faut bien qu'on trouve des solutions. C'est pour ça que cette réforme, elle est difficile. C'est pour ça qu'elle est difficilement acceptable. C'est qu'il faut que tout le monde fasse des efforts. Et quelle que soit leur situation. Et c'est ça qui est terrible. Parce que même si on arrive sur les carrières longues à pouvoir adapter certaines mesures, il faut que tout le monde fasse des efforts. Et c'est sans doute... la difficulté éternelle de la réforme des retraites. Ça sera ça, et il faudra la refaire dans quelques années. Parce que malheureusement, à chaque fois, on est face à ce problème-là.
Allez, il est 17h31. Le rappel des titres de l'actualité sur Europe 1 et sur CNews avec Michael Dos Santos.
La grève des éboueurs de Paris reconduite au moins jusqu'au 20 mars. 10 arrondissements sont principalement concernés. Quelques 6600 tonnes de déchets s'accumulent dans les rues de la capitale. Certains craignent un risque sanitaire lié à la prolifération des rats. L'Union européenne cherche à stabiliser les prix de l'électricité. Bruxelles a dévoilé ce mardi les pistes pour réformer le marché sans le bousculer. Parmi elles, proposer des contrats énergétiques à long terme et des investissements dans les renouvelables et le nucléaire. Un accord entre les 27 pays membres est attendu d'ici l'hiver. Enfin, la France condamne le tir de deux missiles balistiques par la Corée du Nord. Le ministère des Affaires étrangères l'exhorte à se conformer sans délai à ses obligations internationales. Selon Pyongyang, cet essai est le moyen de vérifier les moyens de dissuasion nucléaire. Il intervient au lendemain des exercices conjoints entre le voisin sud-coréen et les États-Unis.
Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. Merci à tous. Merci Monsieur François Séché, merci Docteur Lasseur et Franck Louvrier. On se retrouve dans un instant avec Michel-Édouard Leclerc. On va parler de pouvoir d'achat, évidemment grande préoccupation des Français, d'inflation en matière d'alimentation. Et il sera notre invité tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
– 18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 et on accueille Michel-Édouard Leclerc, bonsoir.
– Bonsoir,
président
bonsoir,
des centres bonsoir. Leclerc, merci beaucoup d'être avec nous. On est avec Éric Revel, Louis Dragnel d'Europe 1. On va parler d'inflation avec vous, l'inflation en matière d'alimentation. Évidemment, les Français sont extrêmement inquiets. Ils ont déjà 14,5% d'inflation sur le mois de février sur l'alimentation. Ça va monter à combien, Michel-Édouard Leclerc ?
Alors, on sort d'un cycle de négociation, c'est qu'en France, c'est tous les ans, c'est une grand messe, c'est très tendu parce que ça se passe en même temps que le salon de l'agriculture. Donc tous les hommes politiques se précipitent au salon de l'agriculture pour dire qu'il faut que les prix soient rémunérateurs. Puis après, ils nous appellent pour dire qu'il ne faut pas que ce soit trop cher. Et donc c'est un cycle, on sort avec, on a bien négocié, on a 400 personnes qui négocient chez Leclerc au niveau national. Et on a à peu près une inflation ramenée à 10%, ce qui est énorme.
Donc ça fait 14,5 plus 10
ouais. Ouais.
24,5.
Alors,
un quart, quoi.
Aujourd'hui, Leclerc n'a même pas fini
de répercuter
alors, on a des obligations légales, on n'a pas le droit de vendre à perte. Et c'est 300 000 euros l'inflation, l'infraction. Hein, donc, on fait attention. Mais on a quand même 2-3 points d'inflation en moins que certains de nos concurrents. Et ce qui fait que l'enseigne, d'ailleurs, est très bien positionnée en prix et on marche très bien. On a gardé la fidélité de nos clients, mais il y a quand même cette inflation a répercuté aux consommateurs.
Que vous allez lisser sur les prochains mois ?
Qu'on va lisser. Et alors aussi, il faut reconnaître que nos collègues de la distribution sont très bons concurrents. Il y a un nouveau patron à Intermarché qui a envie de pas nous laisser le leadership. Système U n'a jamais été très mauvais, mais il se cherche une image prix. Et donc, et Carrefour revient un petit peu dans la course
bagarre.
Aussi, et notamment par ses franchisés. Donc, en tout cas, c'est, à mon avis, autant qu'un bouclier énergétique, la concurrence entre distributeurs
est
menée
plutôt
par le
bonne
Père,
pour le consommateur.
Est bonne pour le consommateur.
On va juste faire le point avec Kinson, notre journaliste, sur les foyers les plus modestes et le gouvernement, ce qu'a proposé le gouvernement, le trimestre anti-inflation. Alors, est-ce que c'est vrai une bonne annonce ou une annonce vous allez nous dire ce que vous en pensez. D'abord, on regarde le sujet.
Dans nos supermarchés, les prix continuent de s'envoler. Depuis février 2021, les produits alimentaires ont augmenté de 17% selon l'INSEE. Selon l'économiste Pascal de Lima, les foyers les plus modestes sont les plus impactés.
Il y a là un jeu de dupes, un jeu de tension entre l'industrie agroalimentaire et la grande distribution. Maintenant, pour les perdants, c'est très clairement tous ceux qui ont les ménages évidemment modestes. Hein. Il sait qu'il y a 10 millions de pauvres en France.
En un an, le prix du beurre, de l'huile, des œufs ou encore du sucre ont augmenté d'environ 20%. Mais la hausse la plus importante concerne les viandes et les volailles, avec plus de 30% d'augmentation. Le gouvernement a trouvé un accord lundi dernier avec la grande distribution qui s'est engagée à mettre en place un trimestre anti-inflation à partir de demain. Une mesure jugée insuffisante pour l'économiste Pascal de Lima.
Je pense que plutôt qu'une intervention des aides ou des ristournes, il faut surtout faire, la transparence totale sur les coûts de production de produits alimentaires et s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine du côté de la grande distribution, voire de l'industrie agroalimentaire, qui pourrait profiter un petit peu de cette situation pour répercuter sur les prix à la consommation.
Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour le journal du dimanche, 81% des Français jugent que l'État ne fait pas assez contre l'inflation.
Michel-Édouard Leclerc, ce trimestre anti-inflation proposé par le gouvernement, vous dites que ça ne sert à rien ? Vous avez déjà des prix bas ?
Je ne vais pas reprocher au gouvernement de s'intéresser à la question de l'inflation. Il avait plutôt bien géré, du point de vue de la finance publique, un certain nombre d'aides pour les personnes les plus pauvres, ou en tout cas les plus touchées par l'inflation. Mais en fait, en France, il n'y a pas eu une mobilisation extraordinaire contre l'inflation, l'inflation supposée, l'inflation spéculation, l'inflation anticipation. Et c'est vrai que vous m'avez invité plusieurs fois sur vos plateaux, j'ai demandé des commissions d'enquête, j'ai demandé des missions d'information, et ça ne s'est pas bousculé au portillon. Et c'est simplement que maintenant, on voit les bilans d'entreprises du CAC 40, le bilan est assez spectaculaire dans les secteurs de l'énergie, de Total, mais aussi les transporteurs et les consommateurs français ont payé tout ça. Donc il y a une partie de cette inflation qui n'est pas normale, qui est spéculative.
Parce que sur certains produits, les pâtes, il y a des vraies raisons pour que ça flambe comme ça ?
Non, je pense que ça a trop augmenté. Et d'ailleurs, il va falloir que... On n'a pas eu de transparence. On a eu... en fait, il y a un peu comme pour le...
Sur quoi, pardon ?
Bah, sur les raisons pour lesquelles on nous demandait des hausses quelquefois de 25, de 30%.
Ah oui, de la part de vos fournisseurs.
Ah mais oui, c'est...
Et alors, il y a de la spéculation très en amont, mais il y a aussi le fait que le monde industriel n'a pas connu l'inflation depuis 20 ans, depuis 25 ans, enfin je ne sais plus depuis combien de temps. Et donc, ils ne se sont pas mis non plus en posture de combat. Ça s'est passé un peu comme l'arrivée du Covid. On a plutôt disserté sur la nature de l'inflation. On a entendu les directeurs d'institutions, FMI, Banque de France, etc. Mais en fait, il n'y a pas eu un mot d'ordre, retournez tous négocier, y compris pour les cantines. Quoi. Il n'y a pas cette culture de la lutte contre l'inflation actuellement.
Il y a une petite lueur d'espoir pour certains Français, c'est de se dire qu'une fois que l'inflation baissera, les prix baisseront. Est-ce que vous pensez que, je sais pas, dans un an et demi, deux ans, quand l'inflation baissera, réellement, à la fois, les industriels vous vendront un peu moins cher les produits, et vous, est-ce que vous répercuterez cette baisse sur les prix pour le consommateur?
Je vois l'idéalisme de la jeunesse dans votre expression, mais...
Mais c'est une vraie question.
Les consommateurs savent très bien que, d'abord, ce qui est pris est pris. Hein, donc, les industriels qui ont fait passer les 15% dont parlait Laurence Ferrari tout à l'heure, ben, les Français ont dû les débourser, d'accord? Il n'y a personne qui va les rembourser. Il y a eu des aides ciblées.
Mais il y aura un chèque alimentaire, là.
Hein. Mais franchement, 15%, c'est déjà beaucoup.
Bien
quoi.
Sûr.
Hein, Et puis, comme il y a un cycle de un an pour ces négociations, ça veut dire que pendant un an, ces tarifs sont applicables. Donc, si on ne va pas chercher des baisses, nous, si on ne va pas remettre de la concurrence avec les industriels, et si les politiques nous laissent faire, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, ils ne nous laissent pas le faire. Donc, il faut qu'on puisse aller chercher des baisses, puisque maintenant, les marchés internationaux commencent à se retourner. Mais on s'est fait quand même vachement avoir l'année dernière, quoi. Alors, à la fois par la passivité des pouvoirs publics d'une manière générale, mais aussi, j'insiste sur l'inculture de la gestion de l'inflation, qui fait que personne n'est allé renégocier ses factures, aussi bien sur les chantiers publics, les artisans, les boulangers. En fait, regardez les bilans quand même de l'industrie, et pas simplement des multinationales, il y a quand même du fric qui s'est fait sur le dos des consommateurs français. Énormément.
Ouais, bon, alors les agriculteurs vous disent aussi, que Michel-Edouard Leclerc, que de temps en temps, la grande distrib se fait du gras aussi sur leur propre compte de bilan aux agriculteurs.
Mais après, vous prenez l'ensemble des bilans de la distribution française, ça n'arrive pas à la hauteur.
C'était juste une remarque.
Non, mais il faut donner...
C'était juste une remarque.
Non, mais votre remarque, il faut lui donner du corps. Si vous prenez les marges de toute la distribution française, on n'arrive pas à la moitié des marges de n'importe quel secteur que vous pouvez nous citer.
Mais par rapport aux années passées...
Non. En fait, je n'ai pas posé de question, je voulais en poser une. Après l'idéalisme de la jeunesse, l'idéalisme de l'expérience, pas de la vieillesse, mais de l'expérience. Le panier anti-inflation d'Olivia Grégoire, il avait un avantage, à mon sens, même si c'est un fiasco, c'était de vous imposer à vous la distribution des produits alimentaires, d'hygiène, qui étaient comparables. Vous avez dit, niet, on va se débrouiller, vous avez la plupart d'entre vous tous dégainé avant en proposant votre propre panier anti-inflation. Alors peut-être pas vous, parce que vous surfez sur l'idée que vous avez pris les prix les plus bas. Mais ma question, c'est la suivante. Notre jeune ami a évoqué le sujet.
Allez-y, Eric.
C'est qu'en fait, on ne peut pas comparer. Parce que vous mettez tous en avant vos produits de marque distributeur. Donc, le consommateur, Michel-Edouard Leclerc, comment il s'y retrouve ?
Alors, allez-y.
D'abord, vous n'êtes pas à jour, cher ami. Leclerc a publié un comparateur de prix de grandes marques que personne ne remet en cause, et effectivement sur des milliers d'articles.
Oui.
Et
d'ailleurs, sur les grandes marques, ok.
Sur ce qui est comparable sans être contesté.
Oui. Attendez,
je parlais
des produits de courants alimentaires.
Je vous parle des produits courants d'hygiène, de consommation courante. Alors, je peux vous citer les panélistes, il y a Kantar, il y a Distriprix, etc. Leclerc est toujours dans le groupe de tête, si ce n'est en tête, d'accord ? Deuxième chose, vous allez aujourd'hui sur le site de Leclerc. Dans chaque ville où il y a un Leclerc, il y a un comparateur de prix qui est actualisé tous les 15 jours. Donc c'est clair, les concurrents sont... Vous allez sur Internet, vous comparez les drives, vous pouvez très facilement comparer Leclerc, Carrefour, Casino, vous pouvez les comparer. Donc quand je fais attention de ne pas abuser de votre invitation pour avoir l'air de faire de la publicité, mais je vous assure qu'on n'est pas mauvais en prix. Première chose. Deuxième chose, non, les Leclerc et les autres distributeurs n'ont pas dit non à l'idée de faire un panier moins cher. C'est que le panier qui nous a été proposé n'était pas cher. C'était un panier où il fallait mettre un peu d'appellation contrôlée, un peu faire plaisir à tout le monde pendant le salaire. C'était abstrait. Et donc, on a dit, d'un point de vue concret, bon, on voit que ça n'a pas été fait par des mecs qui sont sur le carrelage, quoi, homme ou femme. C'était un panier techno. Et franchement, personne ne l'aurait fait.
Vous n'avez pas aimé, vous n'avez pas été à la photo à Bercy.
Il était sur CNews, il était bien mieux.
Oui, mais vous n'avez pas été.
Allez-y, Michel
Edouard Leclerc.
Donc, en fait, la question qui se pose, c'est de savoir si, pour une enseigne comme la nôtre, si c'est nécessaire de réduire son offre à un panier dont personne ne veut, aucune association de consommateurs, avec 50, 60 ou 100 articles, alors qu'on est attendu sur 6000, sur 7000 articles, sur l'exhaustivité de notre offre. Donc moi, nos collaborateurs, nos salariés, nos propriétaires de magasins ne veulent pas que l'effort qu'ils ont fait financier, qui est énorme pour être en tête de la distribution, pour choyer nos 19 millions de foyers clients, on ne veut pas que même pour une publicité gouvernementale, on ait l'air de faire de la publicité sur 50 ou 60 articles. Ça, c'est un choix d'enseigne.
Mais est-ce qu'une fine, ça ne vous arrange pas tous? Moi, la question que je me pose, c'est que
qui sait tous?
Non, mais du coup, je vous cible absolument pas. Mais on voit bien, Carrefour a décidé de mettre en place un panier avec 200 produits qui sont avec des tarifs bloqués. Intermarché a fait encore une autre formule. Vous avez encore une autre formule. Et in fine, on se dit, bon, bah, en fait, chacun a mis un peu les produits qu'il avait envie de mettre dedans.
Donc le consommateur n'est pas gagnant.
Et donc, même si le consommateur a été gagnant, c'est un risque que tous les journalistes disent que c'est de la daube. Et donc, il n'y a pas de raison de se précipiter pour aller faire ce truc-là. D'accord ? Donc, c'était peut-être pas la bonne idée. Ceci dit, on est ouvert à une collaboration avec Bruno Le Maire, avec Olivia Grégoire, sur un truc intelligent. Mais à partir du moment où les trois grandes associations de consommateurs ont dit qu'elles n'en voulaient pas, c'est assez maso que d'aller faire ça. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'inflation, elle va quand même arriver. Donc nous, d'un point de vue même professionnel, mettre une étiquette « produit anti-inflation » alors que de toute façon, il va y avoir de l'inflation, j'ai pas envie de faire ça. On veut bien faire autre chose, mais juste ça, ça n'a pas été pensé.
Qu'est-ce qu'ils vous disent vos clients, Michel-Édouard Leclerc? Alors je rappelle que ces magasins ne vous appartiennent pas, ce sont des franchisés.
Oui, coopératives.
Ils disent quoi, vos clients, aujourd'hui? Qu'ils ne s'en sortent pas ou ils traquent la bonne affaire dans tous les rayons?
En fait, aujourd'hui, il y a une vraie angoisse. Alors, il ne faut pas que je l'accélère moi-même par ma propre angoisse, mais la popularité a cet effet que tout le monde, quand je vais dans un magasin, vient me voir, soit pour dire « là, c'est trop cher », soit pour dire « continuez le combat », etc. Mais dans la réalité, je sens que c'est vraiment, aujourd'hui, un point non seulement de crispation, mais d'anxiété très forte dans les foyers français. On arrive, les consommateurs arrivent, mais ce n'est pas des populations marginales. Ils arrivent beaucoup avec des arbitrages qui ont été faits en famille, avec un budget, mettons, de 40 ou de 50 euros à ne pas dépasser. Et alors, il y a une sorte de transfert de ce qui était avant les grandes marques vers les marques de distributeurs. À l'intérieur des marques de distributeurs, les marques premier prix, on est en augmentation de plus de 30% de ventes sur les marques premier prix. Donc, on a quelquefois des difficultés d'approvisionnement, ce qui vous explique les ruptures. Les marques sont boudées et, en fait, les produits premier prix sont recherchés. Mais y compris par les bourgeois, y compris par les sachants qui ne veulent pas se faire avoir, pas simplement les pauvres. C'est la société française pour qui bien acheter devient un acte aussi...
Acheter pas cher plus que bien. Parce que,
en fait, mais acheter bien aussi.
Acheter bien aussi.
Mais est-ce que du coup, pas acheter de la malbouffe?
C'est une question que je me posais.
La malbouffe ne fait pas recette. Enfin, c'est, quand le bio atteint un prix surnaturel, c'est normal qu'à un moment donné, ça casse. Quand dans un magasin, on vous dit que le bio, c'est 40% plus cher ou 50% plus cher qu'un produit naturel, parce qu'il y a plein d'autres labels, donc là, les gens boudent. C'est normal. C'est normal. Donc le bio a un problème, il faut qu'il le résolve. Moi, je mange bio, je dis simplement qu'il faut. Le bio, il doit se recaler. Il a flambé, quoi. Après, c'est pareil. Moi, je soutiens la reconversion des élevages vers les races à viande, vers ce qui est bon, vers ce qui est racé, vers ce qui est goûtu, etc. Mais c'est pareil. Il ne faut pas que ce soit punitif. Il faut pas que ce soit... Il faut que l'accessibilité au meilleur soit garantie. Et c'est là où le rôle de la distribution est essentiel. C'est, nous, nous, on ne cherche pas à dégrader la valeur des biens. C'est, il faut au contraire que les biens qui sont meilleurs, sans sel, moins de sel, mieux cultivés, trouvent preneur, parce que sinon, c'est de l'élitisme.
La solution, ce n'est pas les circuits courts. Parfois, les prix sur les marchés, les petits marchés, alors, sont deux fois moins chers que les grandes surfaces.
Oui, certaines mais à l'intérieur grandes des grandes surfaces, y compris chez Carrefour, tout le monde fait des circuits courts. Mais non, ce que je voudrais dire, c'est qu'actuellement, enfin, vous en parlez pas, mais on parle du panier du gouvernement, on parle du panier anti-inflation, mais à l'Assemblée nationale et au Sénat, en commission mixte paritaire, dans deux jours, ils vont se mettre d'accord pour nous obliger à prendre une marge de 10% sur tous les produits alimentaires. Donc, d'un côté, vous avez Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui nous dit qu'il faut vendre à prix cassé. Et de l'autre, ou Bruno, le maire et Olivia Grégoire, qui nous disent de faire un effort. Mais la majorité parlementaire, y compris aussi des gens de LR et d'autres partis politiques, disent qu'il faut prendre 10% de marge sur l'alimentaire, il faut diminuer les taux de promotion sur l'alimentaire et diminuer maintenant les taux de promotion sur les produits d'entretien, d'hygiène.
C'est dans le cadre de quelle loi?
Ça s'appelle Descrezaille, donc, ou Descrezaille.
Un député de la majorité.
Ouais, mais en fait, il a servi il a porté un projet. Et donc, il faut que le gouvernement arrête de jouer double jeu. Et c'est là où nous avons besoin du gouvernement. Nous avons besoin de Bruno Le Maire, il faut qu'il soit écouté, mais en même temps, aujourd'hui, il n'est pas audible pour les consommateurs. Et si on me demande de choisir entre une politique gouvernementale qui n'est pas claire et la politique pour mes clients, je choisis la politique pour mes clients.
Louis Dragnel, une question.
Non, la question que je me posais en vous écoutant tout à l'heure, c'est quand on discute avec des industriels ou même avec des gens qui travaillent chez vos concurrents, ils expliquent quand même qu'il y a un paradoxe. Il y a encore 6-8 mois, les Français, leur obsession, c'était la qualité, c'était connaître la provenance, est-ce que le produit est éthique. Et aujourd'hui, vraiment, l'obsession, il n'y a plus qu'une seule obsession, c'est le prix.
Non, non.
Et un certain nombre de Français balayent la question de la qualité. Je mets un peu les pieds dans le plat volontairement.
Non, c'est un peu des débats. Non. Par exemple, nous mettons le Nutri-Score, qui est on peut le critiquer, mais c'est au moins une information sur les composants des produits. Nous mettons le Nutri-Score sur toutes nos marques de distributeurs, et parce qu'on croit à ça. Enfin, il faut de toute façon aller vers ça. Il faut aller vers une alimentation de meilleure qualité. Même en tant que capitaliste, en tant que chef d'entreprise, c'est l'intérêt aujourd'hui d'aller vers cette demande qui ne se satisfera pas d'une offre marketée et tout ça. Non, il faut y aller à fond. C'est simplement que quand ça va trop vite, la cherté, ça ne peut pas suivre. Donc, il ne suffit pas de prôner une économie décarbonée, souveraine, qui va coûter plus cher à produire. Il faut qu'elle puisse être accessible pour la démocratie, pour l'ensemble du public. Sinon, c'est du pipeau.
Michel-Edouard Leclerc, le chèque alimentaire qu'a décidé de verser à nouveau le gouvernement à 20 millions de foyers, c'est la solution ou pas?
C'est une solution pour les gens qui vont le recevoir, et donc je crache pas dans la soupe, mais ce que je voudrais, c'est qu'on réhabilite des politiques de concurrence, c'est qu'on nous autorise à remettre les industriels en concurrence, que les distributeurs puissent se concurrencer librement sans qu'on leur mette des bâtons dans les roues, enfin qu'il y ait une régulation du marché. Je suis pas un ultra-libéral, mais quand même, c'est incroyable de nous parler que de filières, de nous parler mais non, il faut que aujourd'hui, il y a des industriels qui affichent des bilans somptueux. L'année dernière, ils nous ont dit c'est à cause de la guerre en Ukraine, tout ça. Donc cette année, il ne faut pas qu'ils nous refassent le coup deux fois, quoi.
Merci beaucoup, Michel-Edouard Leclerc, d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Eric Revel, Louis de Ragnel. Dans un instant, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info sur CNews et sur Europe 1. C'est Europe 1 soir avec Raphaël de Bolbé. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes. À demain.
Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur Europe 1.